Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Culture et vous sur IDFM Radio. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de culture sur le 98 de la bande FM. Culture et vous met chaque semaine à l'honneur une personnalité, un événement ou encore de jeunes Valdoisiens en lien avec la culture, les arts et le divertissement. Cette semaine, je suis allée à la rencontre d'un acteur, scénariste et réalisateur francilien, Florian Essick, qui a effectué ses débuts à la télévision en 2010 grâce à sa toute première création, à savoir la série courte humoristique Autoroute Express. Cette série courte humoristique de 48 épisodes sera diffusée durant 3 saisons sur plusieurs chaînes de la TNT. En 2015, Florian Essick renouvelle de nouveau l'expérience de la création et la scénarisation d'une nouvelle série courte qui s'intitule « À votre service ». La série comporte 3 saisons et 2 primes pour un total de 85 épisodes de 3 minutes. Florian est également le réalisateur de plusieurs longs métrages, dont Le Casse des Casses, sorti en 2014, et La Légende, en 2017, qui remportera 63 prix à travers le monde dans de nombreux festivals. Nous démarrons l'émission par un portrait de l'artiste, qui, comme vous le découvrirez, à seulement 34 ans, a déjà une carrière cinématographique impressionnante. Florian Essick a également écrit un livre, publié en 2019, qui aborde les coulisses du sport de haut niveau. Aujourd'hui, Florian prépare un nouveau long métrage qui s'intitule « Le défi de Noël ». Pour rester dans ce thème, nous écouterons le titre « Let it snow », un titre que le réalisateur a lui-même choisi. Ensuite, Florian Essick nous parlera plus précisément du long métrage qu'il prépare actuellement et nous clôturons l'émission avec de nombreuses idées de sorties culturelles à deux pas de chez vous. Découvrons tout de suite mon invité, Florian Essick. Bonjour Florian Essick, bienvenue sur IDFM Radio, c'est un plaisir de vous avoir sur nos ondes. Vous préparez actuellement un nouveau long métrage, votre 5e, qui devrait sortir en 2023. Avant de parler du long métrage, si vous le voulez bien, nous allons retracer votre parcours. Vous êtes né dans les Yvelines et vous résidez actuellement à Paris. Et à seulement 34 ans, vous avez une carrière cinématographique déjà bien riche. Alors Florian Essick, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit ou est-ce que la comédie est une passion qui vous a animé après votre adolescence ?
Eh bien, c'est pas une passion qui m'est tombée dessus petit, mais c'est arrivé progressivement à partir de 2007-2008. Et puis après, effectivement, je me suis impliqué dedans à 100% et comme je déteste ne rien faire, et ben je fais beaucoup.
Et comment est-ce que vous avez démarré votre carrière de comédien ? Est-ce que vous avez suivi des cours d'art dramatique, par exemple, avant de postuler pour des rôles ?
Eh ben, pas du tout. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, puisque j'étais basketteur de haut niveau jusqu'en 2009. Voilà, c'était une première vie, une première carrière. Et puis quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir... surfer sur plusieurs choses. J'avais pas l'intention à la base de faire de la comédie, mais j'étais devenu ami avec un réalisateur par mes activités de basketteur, qui m'a proposé de faire quelques petites choses devant la caméra, et puis de fil en aiguille, ça m'a passionné. J'ai voulu voir ce qui se passait vraiment derrière, comment on créait des programmes, comment on réunissait des équipes, comment on les tournait, comment on tournait des films, des séries, voilà. Et puis j'ai créé donc la même année, en 2009, mon premier programme qui s'appelait Autoroute Express, qui était une série courte humoristique. Voilà.
Et justement, vous aviez seulement 22 ans à ce moment-là.
Oui,
c'est bien ça. Hein,
c'est ça.
Et quand vous avez créé cette série, comment est-ce que vous avez procédé pour vendre votre projet et pour avoir la possibilité d'être diffusé ?
Alors,
parce que vous démarriez.
Plusieurs choses. Effectivement, les portes ne sont pas ouvertes immédiatement. J'ai créé cette série écrite. On a fait le casting. J'ai fait le casting et puis effectivement, il n'y avait pas spécialement de diffuseurs intéressés. Donc j'ai dit on va tourner tout de suite. J'ai autoproduit une première saison complète, parce qu'il n'y a jamais rien de mieux que les choses faites sous les yeux des gens. Donc on a j'ai produit cette première saison, et ensuite je l'ai proposé à plusieurs chaînes en leur disant bon bah écoutez, cette saison elle est faite, donc on vous la met à disposition, et puis si ça marche, bah à ce moment-là on repartira sur d'autres saisons, mais voilà, au moins il y avait quelque chose. Moi j'ai assez vite je suis assez d'accord finalement avec le principe de dire il n'y a pas de raison que ces gens-là me fassent confiance, puisque j'ai pas de référence dans le domaine. Donc il faut, si je me fais pas confiance moi personnellement, je vois pas comment les autres me feront confiance. Donc j'ai décidé de me faire confiance en faisant une saison 1, et puis et voir ce que ça donne, et puis finalement ça a plutôt pas mal marché.
Ah oui, tout à fait. Plutôt très bien même. Et justement, vous avez écrit donc cette série. L'écriture, c'est vraiment une passion pour vous, Florian Essic?
Oui, j'ai toujours. C'est quelque chose qui doit être en moi, parce que même dans mes années d'école, j'ai toujours aimé écrire, aimé développer des histoires, des choses comme ça. Et j'avoue que le cinéma permet, le cinéma ou la télé d'ailleurs, me permet vraiment de mettre en, de donner vie finalement à des histoires écrites. Donc je trouve que ça me correspond plutôt bien.
Alors en parlant de livres, je voudrais qu'on aborde maintenant d'écriture plutôt, je voudrais qu'on aborde le livre que vous avez écrit, qui s'intitule Markovitch par Jean-Christophe, qui a été publié en 2019. Dans cet ouvrage, on explore donc les abysses du quotidien d'un basketteur professionnel français, devenu presque malgré lui l'un des meilleurs de sa génération. Donc on y voit le dopage, la manipulation, la guerre d'ego, le transfert, et on entre dans les coulisses du sport du haut niveau avec ces zones d'ombre. Et vous avez vous-même été basketteur professionnel, vous nous l'avez dit, pendant plusieurs années. Est-ce que c'est votre propre histoire qui vous a inspiré pour ce livre?
Oh ben, il y a forcément, il y a toujours un peu de vécu, ça c'est évident. Après, ça reste de la fiction, il y a des choses que, heureusement, je n'ai pas vécues. Mais en tout cas, un peu comme tout ce qui est dans le film La Légende, le livre c'est un peu le prolongement, c'est que des choses qui existent, qui sont pas, je tiens à le dire, parce que c'est pas un procès contre le sport de haut niveau, c'est pas des choses forcément, des pratiques généralisées, mais ce sont des pratiques qui existent, et effectivement que j'ai pu voir ou vivre à certaines périodes de ma vie. Et sans faire de, c'était l'idée n'était pas effectivement de faire un procès de ça, mais plutôt de montrer, on met toujours en avant le sport de haut niveau, ses valeurs, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du sport de haut niveau, et l'idée c'était plutôt de dire oui, le sport c'est bien, ça peut donner des belles choses, mais il faut quand même faire attention. Et oui. Il n'y a pas que des gens intéressants, il y a beaucoup de gens intéressés, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens intéressants dans ces milieux, et pas forcément tous bienveillants non plus.
Oui, d'où l'intérêt peut-être d'être encadré en ce qui concerne les jeunes notamment, qui veulent faire carrière dans le sport de haut niveau.
Absolument.
En 2014, vous avez écrit et réalisé Le Casse des Casses, et en 2017, vous en parliez donc le film La Légende, qui raconte là encore une histoire d'un basketteur professionnel, on le disait, et qui a été récompensé 63 fois à travers différents prix dans le monde entier, et qui rencontre toujours un succès immense lorsqu'il est diffusé à la télévision. Alors ce qui est original avec vous, c'est que vous écrivez, réalisez et jouez dans vos films. Lorsque vous écrivez vos scénarios, est-ce que vous imaginez immédiatement un rôle pour vous?
Alors, pas toujours, puisque j'avais développé, enfin, une série qui a, on a fait 3 saisons et 2 prime qui s'appelait À votre service. C'est pas toujours le cas. Parfois oui, parfois non. Après, c'est vrai que moi j'aime bien jouer. Donc, je me dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Oui.
Et donc pourquoi? C'est vrai que monter un film, c'est long. Voilà, trouver les producteurs, les financements, toutes les choses sympathiques à faire avant qu'un film puisse être mis en route. Et je me dis, tant qu'à faire, autant s'amuser, donc autant jouer quand l'histoire le permet.
D'accord. Et on va terminer cette première partie avec les 5 questions rapides qui sont un peu plus personnelles et en lien avec la thématique de votre 5e long métrage que vous tournez d'ailleurs en ce moment. Alors on va parler de la magie de Noël. Qu'est-ce que la magie de Noël représente pour vous, Florian Essic?
Ah, ça c'est une bonne question, ça doit être rapide, je suis pas sûr d'être le plus rapide sur la question. Mais c'est vrai que Noël c'est une période assez particulière parce que moi qui ne suis pas un grand fan de la période de l'hiver, c'est même la période que j'aime le moins, mais curieusement quand arrivent les fêtes de Noël, quand on commence à diffuser les films de Noël, il y a une espèce d'ambiance dans l'air un peu différente, les décorations, les marchés de Noël, voilà, on a l'impression d'entrer dans une autre dans un autre monde, l'histoire de quelques semaines, on est au même endroit mais un peu dépaysé, et pour moi la magie de Noël c'est ça, c'est que c'est la même vie, c'est les mêmes endroits, c'est les mêmes gens, mais avec des couleurs un peu différentes et plus sympas que d'habitude.
Et justement, quel est le symbole le plus fort pour vous qu'on retrouve à Noël?
Ah bah, le symbole de Noël, c'est plutôt le côté l'union, les gens aiment se retrouver, c'est un moment de communion. Alors un peu moins effectivement ces deux dernières années avec la crise qu'on connaît, mais en tout cas, voilà, pour moi c'est la réunion des gens. L'union, on met un peu de côté ses problèmes, ses rancœurs, ses divisions pour passer un moment tous ensemble et profiter de cette fête.
Et justement, quand vous êtes, par exemple, avec vos proches, et quel est le plat que vous adorez déguster pendant les fêtes de Noël?
Ah là, il y en a plein, hein. Il y en a trop. Il y en a trop. Non, le plat, c'est un peu, c'est assez traditionnel, mais le chapon, la dinde de Noël, voilà, ça c'est des choses qui me parlent bien. Même si depuis quelque temps, il y a une prise de conscience des gens et de moi-même sur la viande, les animaux, etc. Et que même si j'avoue, j'en consomme encore, mais moins.
D'ailleurs, vous avez raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup, beaucoup moins, par exemple, de foie gras à Noël.
Oui, absolument.
Ouais, c'est vrai. Et quel est l'endroit de rêve où vous aimeriez, ou alors où vous aimez, en tout cas, passer Noël? Un endroit magique.
Ah. Un endroit magique, oui. Alors, c'est presque là où on tourne en ce moment. On n'a pas besoin d'aller très loin, mais c'est vraiment... un chalet isolé en pleine montagne avec de la neige partout. Voilà, avec des belles décorations autour du chalet et avec vue sur les montagnes et rien d'autre.
Ça fait rêver.
Le lieu idéal. Oui,
et pour finir, quelle est votre chanson de Noël préférée?
Alors, ma chanson de Noël préférée, c'est Let It Snow. Je dois pas être le seul, c'est quand même un titre assez connu, mais parce que voilà, je trouve que il y a plein de chansons de Noël que j'aime bien mais qui sont un peu plus mélodieuses, un peu plus mélancoliques, alors que celle-là je trouve qu'elle donne la pêche, donc j'aime bien cette chanson.
Eh bien, vous savez quoi, nous allons l'écouter tout de suite sur IDFM, juste avant de parler de votre prochain long métrage que vous tournez donc actuellement et qui s'intitulera Le défi de Noël. Donc c'est Let It Snow sur IDFM Radio.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low.
Je suis toujours en compagnie de Florian Essig sur IDFM. Nous allons maintenant parler de votre nouveau long métrage que vous tournez actuellement et qui s'intitulera Le défi de Noël. Alors, il y a à nouveau question de sport, de compétition, mais pas de basket cette fois-ci. Il s'agit de football. Est-ce que c'est bien ça?
C'est bien ça. Il s'agit de football et plus particulièrement de football féminin.
Exact. On n'a pas l'habitude, c'est un thème, c'est vrai, qui est pas abordé souvent dans les films. Est-ce que on peut dire que Le défi de Noël, c'est une comédie romantique? Comment est-ce que vous qualifiez votre film, Florian Essig?
Ah oui, c'est clairement une comédie romantique. On est vraiment dans le thème des films de Noël qu'on voit à partir de du mois de novembre jusqu'à fin décembre sur toutes les chaînes. Voilà, on est clairement là-dessus. Encore une fois, j'ai toujours eu envie, je ne sais pas pourquoi, de faire un film de Noël parce que voilà, c'est un peu hors du temps. C'est un peu on a envie de croire à tout ça, de partager ces moments avec les gens qui vivent ces histoires et on a envie que ce soit vrai surtout et donc j'ai toujours eu envie de faire un film de Noël, mais après voilà, il fallait trouver le thème, le but n'est pas de faire un film de Noël pour faire un film de Noël.
D'autant plus qu'il en existe énormément, et puis alors justement très peu réalisés en France d'ailleurs, en tout cas par des réalisateurs français, mais les films de Noël font toujours un carton, vous le disiez d'ailleurs, hein, au mois de décembre on adore regarder les films de Noël.
Je vous écoute.
Est-ce que vous savez à quel moment il va sortir justement le défi de Noël?
Alors normalement, ce sera la période de Noël 2022.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui est prévu. C'est pour ça que là, on termine le tournage d'ici une quinzaine de jours. Et puis ensuite, il y aura toute la partie montage, etc. Parce que faut que ce soit prêt assez vite pour Noël prochain, même si ça peut paraître loin, c'est assez court finalement.
Exact. Et est-ce qu'on peut dire un mot justement sur la distribution de ce film, puisque vous avez des comédiens assez exceptionnels sur ce long métrage?
Oui. Il y a un joli casting, puisque il y a Patrick Préjean notamment. Alexandre Deban, que le grand public connaît bien en tant qu'ancien présentateur de Vidéogag notamment sur TF1. On a l'acteur américain Corinne Nemec, qui est très connu en France pour son rôle de Parker Lewis dans les années 90. Et puis il a joué dans beaucoup de choses. C'était l'une des figures emblématiques de la série Stargate. Voilà, il fait beaucoup de choses, beaucoup de séries. Il y a Jean-Marc Généreux qu'on connaît surtout pour Danse avec les Stars. Voilà, il y a Lisa Dan qui est l'une des finalistes de la France Incroyable Talent, dont c'est la première apparition dans un film. Et puis on a le rôle principal de la footballeuse qui est jouée par Aurore Planas. Voilà.
Eh ben, ça promet. Comment vous avez réussi à convaincre un Américain de venir tourner dans votre film de Noël?
Eh ben, c'est parfois plus facile de travailler avec les Américains qu'avec les Français, malheureusement. Avec Corinne, on se connaît depuis un petit moment, on échange depuis quelques années maintenant. Et puis quand l'occasion s'est présentée, Je lui ai proposé de faire partie de la distribution et il a tout de suite accepté. Il a lu, il a accepté. Il m'a dit avec grand plaisir, on y va, ça va être marrant. Et voilà, tout simplement. Les choses peuvent se faire parfois simplement.
C'est magique. C'est Noël.
C'est la magie de Noël.
Oui, tout à fait. Alors, l'année dernière, vous avez écrit et réalisé le long métrage Face à Face, dans lequel on vous retrouve, bien évidemment, comme comédien, puisque vous jouez aux côtés de Valérie Mérès et Frédéric Diefenthal. Ce quatrième film sortira en salle fin 2022 également. Pour ce nouveau film, vous avez décidé de vous attaquer à un sujet délicat, celui de la réinsertion et des remises de peine à travers le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, comment cette idée vous est venue ?
Alors, je connaissais pas du tout ce métier il y a encore quelques années de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. J'ai eu l'occasion de le découvrir et ce métier m'a passionné pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un métier que finalement très peu de gens connaissent. Et alors que ça reste l'un des rouages très importants de la société, de la réinsertion et surtout de l'évaluation de la dangerosité d'un détenu qui va faire une demande d'aménagement de peine. Donc je trouvais ça déjà fou qu'on connaisse pas ce métier. Et ensuite, quand j'ai creusé un peu plus, évidemment, j'ai pu m'apercevoir de toute la dextérité, entre guillemets, l'expérience qu'il faut pour analyser les gens, parce que c'est pas des psychologues, hein, mais c'est vraiment, souvent c'est des gens qui ont fait de la criminologie, des choses comme ça, du droit évidemment, voilà, c'est pas facile sur des cycles de 6 semaines de savoir qui on a en face de soi. Il y a des profils quand même bon, déjà très variés mais très spécifiques, avec des troubles, avec des failles assez importantes qui bien sûr pour souvent vont essayer de les dissimuler, et on se dit, alors ça tient pas sur une personne, parce qu'il y a effectivement ce poste là il y a le conseiller pénitentiaire en fonction de probation, il y a les psychologues du travail, il va y avoir les surveillants, mais de cette analyse de 6 semaines, positive ou négative, va ressortir devant le juge d'application des peines, le fait de parfois remettre en liberté ou non un individu. Et c'est vrai que moi ça me fascine, parce que je me dis, en fait, une vie peut se jouer sur quelques jours, quelques entretiens, et les deux côtés m'intéressaient, en fait, le côté dans le film criminel, voilà, qui a déjà purgé la moitié de sa peine, qui était assez jeune au moment des faits, quel va être son recul sur les faits, qu'est-ce qui a été mis en place pour changer son comportement, les choses comme ça, et en face le métier de cette conseillère d'insertion et de probation qui va essayer de démêler le vrai du faux avec le dossier, avec les éléments que ce détenu lui donne en face, avec une hiérarchie aussi qui lui donne pas de moyens, mais parce qu'elle n'en a pas elle-même, mais qui lui met une pression d'enfer pour remplir son quota de synthèse à chaque cycle. Et voilà, tout ça m'a un peu, c'est très long ma réponse, mais m'a un peu passionné, et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller là-dedans.
Et du coup, vous avez rencontré des professionnels du milieu carcéral pour écrire et réaliser ce film ?
Oui. Alors, encore une fois, j'en ai rencontré plusieurs, évidemment. J'ai aussi eu l'occasion de visiter une prison. Enfin, voilà, ça, c'est des choses bien. Après, c'est vrai que on reste en France, et que administrativement tout est compliqué, et on peut pas dire que la direction de la communication de l'administration pénitentiaire nous ait beaucoup aidé là-dessus. Mais ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai que oui, j'ai rencontré pas mal de gens, et de toute façon, je pense que c'est des choses qu'on peut malheureusement, même avec le meilleur scénariste du monde, quand on connaît pas, on connaît pas. Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est un milieu assez particulier, et il faut connaître qu'il y a ses codes, qu'il y a évidemment ses termes, ses méthodes, voilà, c'est très particulier, c'est comme sur chaque métier, et donc il a fallu rencontrer des gens, parler, voir un peu comment tout ça se passait.
Et vous explorez plusieurs genres, justement, on l'a vu, hein, à travers vos séries et vos films, et ce n'est pas commun. Mais comment est-ce que vous faites pour passer avec autant de succès de la comédie au drame, à la comédie romantique même?
Eh ben, je ne sais pas. Non, alors en fait, moi, c'est vrai que j'ai une tendance à, entre guillemets, à faire ce que j'ai envie de faire au moment où ça me parle. Comme tout le monde, il y a des moments où la vie est très chouette, il y a des moments où elle est un peu plus triste. Moi, je suis assez inspiré par ce qui se passe dans le pays, dans l'univers en général. Voilà, donc je me laisse porter par mon inspiration du moment, et parfois j'ai envie de faire un drame, parfois les sujets viennent assez naturellement, après je les travaille, mais j'ai surtout pas envie de me mettre de barrière en me disant ah non, je fais que du drame, faut que je reste dans le drame, je fais que de la comédie, faut que je reste dans la comédie. Ce serait peut-être plus simple parfois, mais c'est pas mon souhait en tout cas.
Vous suivez vos envies.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Florian Essig. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous sur le 98 de la bande FM.
Merci à vous. À très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les différentes œuvres de Florian Essig en DVD et en VOD. Le prochain long métrage de Florian sortira au cinéma à la fin de l'année 2022. Il s'agit de Face à Face, où il joue aux côtés de Valérie Mérès et Frédéric Diefenthal. Le défi de Noël qu'il tourne actuellement sera visible en 2023. Avant de clôturer l'émission, voici des idées de sorties culturelles tout près de chez vous. Le vendredi 25 février à 20h30, le Centre Cyrano de Bergerac, dans la ville de Sannois, vous propose une comédie de Thomas Poitevin, Hélène François et Stéphane Fuenquinos, interprétée par Thomas Poitevin. Dans cette comédie intitulée « Thomas joue ses perruques », Thomas Poitevin incarne une ribambelle d'anti-héros magnifiques, des personnes plus que des personnages sortant d'une énergie dramatique du trop, comme prête à basculer dans la tragédie totale, mais qui, grâce au rire et à l'empathie qu'elle provoque, parviennent à rester dans la lumière. Qu'elles parlent beaucoup ou peu, qu'elles passent en coup de vent ou se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, touchantes, complètement paumées, obstinément humaines.
IDFM 98FM.
À Arnouville, durant un mois, l'art s'expose dans les rues de la ville avec la seconde édition de Palette d'artistes. Vous pourrez apprécier Hors les murs, une exposition de reproduction en grand format d'œuvres d'art d'artistes locaux dans différents domaines, peinture, sculpture, gravure, photo, sur la thématique avatar et métamorphose. Des performances live d'artistes professionnels vous seront également proposées à l'espace Fontaine. Promenez-vous dans les rues d'Arnouville et à l'espace Fontaine jusqu'au 6 mars pour découvrir les œuvres. À la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise, vous pourrez assister demain 13 février à un concert d'orgue à 17h dans le cadre des heures musicales de Pontoise. Ce soir, au restaurant Le Relais du Lac, c'est soirée 100% française avec les incontournables têtes de linotte. Pensez à réserver. Le restaurant Le Relais du Lac se trouve 1 avenue Beauséjour à Soisy-sous-Montmorency, à 2 pas du lac d'Anguin. Et pour vivre un moment aussi agréable, drôle qu'émouvant avec la comédie sentimentale Des Amours, écrite et mise en scène par Franck Buireau, c'est tous les samedis à 19h45 jusqu'au 27 février au théâtre Montmartre-Galabru situé 4 rue de l'Armée d'Orient dans le 18e arrondissement de Paris. Accès par les lignes 12, 2 ou 13, métro Abbesses, Blanche ou Place de Clichy. Il ne reste que 3 dates. Nous recevions l'auteur de cette pièce sur nos ondes le mois dernier. Son interview est à retrouver en podcast sur notre site internet dans la rubrique Culture. Retrouvez tout de suite l'émission Empreinte sur IDFM. Pour ma part, je vous dis à samedi prochain 10h30. À bientôt sur votre radio francilienne préférée.